aujourd'hui des retrouvailles. C'est vrai que depuis qu'il avait pris sa retraite politique en France, on le voyait et on l'entendait moins. Il avait tenté l'aventure de la présidentielle dans son autre pays, le Togo. Et puis quoi, en fait, il écrivait ses mémoires. Les mémoires d'un homme qui en a vu et subi de toutes les couleurs. Ah, la couleur, celle de sa peau, noire, a défrayé les chroniques. On a dit qu'il fut le premier maire noir de France métropolitaine, celui de Saint-Coulis. En fait, il nous explique qu'il n'était pas tout à fait le premier. Mais nous, Finistériens, étions plutôt fiers d'avoir fait preuve de tant d'ouverture. Sauf que, la réalité est moins rose que les peaux de la majorité ici. Notre invité l'a bien mesuré. Alors certes, la politique, c'est l'arène, la guerre permanente, la bataille, mais quand en plus on a une autre couleur que celle de la majorité, c'est presque l'enfer parfois. Mémoire d'outre-haine, c'est le titre de son récit publié par Locus Solus pour commencer cet entretien. Nous lui donnerons la parole, Dayo. Bonjour, Kofi Amian.
Bonjour.
Quand est-ce qu'il a été écrit ce livre? Enfin, depuis quand est-ce que ça a commencé en fait déjà?
En fait, c'est une vieille histoire. Lorsque j'ai été élu en 1989, que les courriers ont commencé à affluer de la France entière, essentiellement PACA, région parisienne, région nord, on s'est dit, avec mes collaborateurs, on va, ne jetez rien, mettez ça de côté, c'est des lettres anonymes, je ne peux pas leur répondre, je suis frustré de ne pas pouvoir leur répondre. Discutez avec eux, voir qu'est-ce qui peut bien justifier de telles prises de position. Et puis, bon, j'ai oublié les 6 cartons dans mon bureau, je les ai oubliés en fait, bon, j'y pensais plus.
6 cartons, pas d'un coup, c'est 6 cartons qui s'accumulaient.
Ah, ça s'accumulait. On a reçu, aujourd'hui, il doit y avoir entre 500 et 1000 courriers. Ah oui, oui. Quand même, j'ai quitté l'arène politicienne, c'est-à-dire que quand j'ai quitté la mairie de Saint-Coulis, j'ai quitté le conseil général du Finistère, j'ai quitté la région Bretagne, j'ai quitté l'Assemblée nationale, je ne suis plus ministre. Bon, après, ça s'est calmé. Mais ensuite, il m'arrivait de prendre la parole parce qu'on me demandait mon avis sur tel ou tel sujet. Chaque fois que je prenais la parole, ça repartait. Et donc, finalement, je me suis décidé à, non pas à écrire un livre, mais à écrire un témoignage. Montrer que il y a des gens, des pauvres gens qui se sont trompés de colère et montrer à la multitude, à tous les autres, que cette face-là existait dans notre société et qu'il fallait que chacun prenne ses responsabilités, fasse attention, parce que nous n'avons pas d'avenir en commun si nous ne pouvons pas vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il n'y a qu'une solution, ou bien c'est la tolérance, les gens savent, voilà, ou bien c'est les métissages. De toute façon, l'avenir de l'humanité est dans les métissages. Métissage culturel, métissage raciaux, métissage philosophique, métissage de la pensée, de l'action. Tout est dans les métissages, on ne s'en sortira pas autrement.
Ça a d'ailleurs toujours été, si on écoute les généticiens, en tout cas, c'est pas nouveau apparemment. Mais alors là, la crise sanitaire, je ne sais pas si vous aviez commencé à écrire évidemment avant la crise sanitaire, est-ce que ça a éventuellement changé quelque chose à certains passages du livre ou non, enfin...
Oui, certainement. J'avais commencé à écrire avant, la crise sanitaire est venue dessus et m'est revenue cette histoire du voyageur galactique... et puis tous ces gens qui mettent un peu d'argent, beaucoup d'argent, ceux qui en ont beaucoup, pour prolonger leur vie en bonne santé. Et je me suis dit quand même, ils font ça, mais les autres, comment ils font? Les autres vont mourir jeunes, ils vont avoir de la malbouffe, voilà. Et j'ai fait juste un petit paragraphe là-dessus. Dans une des veillées, j'en ai parlé parce que c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et c'est la crise du Covid-19 qui m'a révélé cette affaire. Quand je vois comment ceux qui sont le plus atteints. On ne le dit pas. Ceux qui sont le plus atteints aujourd'hui par le Covid, c'est les plus pauvres.
Les plus pauvres des pays développés, en fait.
Des pays développés, oui, ouais. J'entends. Les plus pauvres des pays développés. Dans les pays sous-développés, on n'en parle pas. C'est, là, vraiment, c'est l'égalité devant la maladie. Mais en France, par exemple, c'est les plus pauvres qui attrapent le Covid. Ce n'est pas les gens qui savent se soigner en préventif. Voilà. Tout ça, je me dis que vivre ensemble, c'est tout ça. Et il ne faut pas négliger ça.
Et le vivre ensemble, de toute façon, on avait constaté qu'il ne se portait pas forcément très bien dans des affaires précédentes. Enfin, il y a eu des affaires qui, à mon avis, entrent tout à fait en résonance avec le livre. C'est MeToo, donc sur le sexisme, les violences faites aux femmes. Black Lives Matter sur l'affaire George Floyd, ben, qui est en jugement d'ailleurs actuellement. Enfin, comment est-ce que vous avez... Est-ce que c'est pareil, là, vous avez adapté, vous avez créé des histoires, enfin, des récits en écho à ça ou pas spécialement
Si, j'en parle de l'exclusion. Je suis très sensible à ce problème-là, puisque aussi bien quand j'ai été au gouvernement, c'était de cela que j'étais chargé. Mitterrand m'avait dit, quand je lui demandais « Vous attendez quoi de moi, monsieur le Président ?»« J'attends de vous que vous réconciliez les Français avec leurs exclus. »
Et vous répondez « Vaste programme ».
« Vaste programme », oui, parce que c'est dur, c'est lourd. Et donc, tout ça, exclure, comme font les hommes, le terme latin « vir », c'est-à-dire les hommes, les masculins.
Les mâles, ouais.
Les mâles. Mmh. Comment ils traitent plus de la moitié de l'humanité? Parce que sur 100 personnes sur Terre, 52 sont des femmes. Alors, très franchement... s'octroyer un tel droit et dire, voilà, et si tu n'es pas content, je te tape dessus, et si en tapant dessus, t'as pas encore assez, je te tue. Mmh. Voilà. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas imaginable. Donc, MeToo, il y a un paragraphe là-dessus où je parle de l'exclusion et aussi de la mort de George Floyd aux États-Unis dans des conditions épouvantables. Ce n'est pas normal de mourir comme ça parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un noir. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Et sur les femmes, vous racontez... Le livre n'est pas toujours dramatique. C'est un petit peu marrant quand même quand vous racontez que vous faisiez un tandem, un binôme avec la seule fille de la promo de votre école, Jose. Donc vous étiez les deux de la minorité visible, enfin des minorités visibles en fait,
oui,
c'est ça.
On était, oui. Je l'appelais Jose, elle s'appelle en réalité Jocelyne.
Ah, je me demandais si c'était Josiane ou Jocelyne.
Oui, non, c'est Jocelyne. Elle était entrée à l'école la même année que moi.
Une école d'ingénieurs,
à l'école d'ingénieurs des mines. Et aux mines, on est, chaque promotion, c'est 72 personnes. Il n'y a pas une de plus. Et puis, cette promotion-là, il y a une fille, c'était la première fois, et un noir, c'était la première fois. On se retrouve, donc on avait, quand on est à l'école, nous on entre en première à la promotion, les jeunes qui arrivent, il y a déjà deux promotions, puisqu'il y a trois années, il y a déjà deux promotions. Dans aucune des deux promotions, il n'y avait ni noir ni fille. Alors, quand je regarde ça, je lui dis à Joss, un jour je lui dis, écoute Joss, je crois qu'il va falloir qu'on soit binôme. Elle ne comprenait pas pourquoi je lui disais.
Ah bon? Alors,
je lui ai expliqué, parce que tu es la seule fille dans cet aréopage d'hommes blancs, et moi je suis le seul noir. On est bien obligé. Mais bien sûr, tu as raison, Kofi, je n'avais pas vu. Voilà. On a été binôme pendant 3 ans.
Bah oui, voilà. Du coup, bon, vous êtes au moins tenu compagnie. Enfin, vous faisiez bloc,
on
barrage.
On faisait bloc et on se tenait chaud comme ça.
C'est ça. Ouais. C'est important. Hein. Parce que c'est important parce qu'on s'en rend compte en lisant donc ce livre que je pourrais qualifier d'effarant, parce que c'est quand même un peu le cas. Enfin, c'est. Même si c'est vrai que la forme, on pourrait se dire, bah, ça va être chaleureux, ce sont des veillées. Donc expliquez-nous alors ces contes à la mode Bassard. Racontez-nous comment ça se passe, pourquoi vous avez voulu prendre cette forme-là.
Alors, je vous disais en démarrant que c'est un témoignage. Mais c'est un témoignage qui se veut être éducatif. Et le conte en pays Bassard, d'ailleurs, le conte en pays breton aussi, parce que j'ai connu le conte en pays breton, il est éducatif.
Le conte est éducatif, en fait.
Le conte est éducatif. Il est moral, il est éducatif, voilà. Et je me suis dit, pour bien montrer que je suis français, demeuré intrinsèquement bassard africain, je vais montrer, en mélangeant mes deux cultures, l'oral en parlant, la veillée, et puis l'écrit en écrivant ce qui ne se fait jamais chez moi au Togo. On n'écrit pas des contes, on les raconte. Et là, j'ai fait ce mix pour bien montrer que les deux cultures peuvent cohabiter, vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le mettre sous forme de conte, sous forme de veillée, de sorte que je pense que j'apporte aussi un petit peu de ma culture d'origine à la culture française. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et il y a une petite chose qui manque, d'ailleurs, dans le livre. Enfin, il y a des photos, quand même, de Bangéli et puis des environs, enfin, du Pays Bassard, on va dire. Mais est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu comment c'est ? Enfin, est-ce que c'est de la forêt ou pas trop ? Enfin, comment c'est géographiquement ?
Alors, géographiquement, le Pays Bassard est un pays de montagnes. Il y a beaucoup de montagnes. Ce n'est pas des grosses montagnes, c'est quand même plus haut que les Monts d'Arrée. C'est plus haut que le Ménéum, c'est à 600 mètres, donc c'est pas mal.
Ah ouais.
Et donc, sur les pentes des montagnes, il y a beaucoup, beaucoup de forêts. C'est habité par des bêtes sauvages de toutes sortes. Les fauves, les prédateurs, les singes, les gorilles, voilà. Et puis quelques victimes qui se promènent par là, les antilopes, les copes de buffon, etc. Et puis en plaine, parce qu'on habite chez moi au village, on habite en bas d'une des collines. Et ces collines-là sont d'ailleurs des réservoirs de minerais de fer. Et chez moi, tout le monde a toujours été métallurgiste dans le village. Mes parents étaient des métallurgistes, c'est-à-dire qu'ils allaient ramasser ce qu'on appelait les cailloux chez moi, mais qui sont en réalité des minerais de fer, très denses, très riches, et qu'on faisait fondre dans des bas fourneaux sur du charbon qu'on brûlait. Voilà. On en tirait des gueuses, qu'on donnait à une autre tribu qui les transformait en outils.
Mais c'était pas vous les forgerons alors ?
Non, il y a un village forgeron, mais les vrais forgerons, c'était les Kabyé, qui étaient une ethnie à 80 km de chez moi, et qui venaient chercher les gueuses. Moi, j'ai vu arriver ces gens-là qui venaient prendre des gueuses, qui faisaient 50 kilos et les mettaient sur la tête. Et ils marchaient 80 km.
Donc une gueuse, c'est le minerai extrait, c'est raffiné.
C'est le minerai qui est extrait des cailloux, comme on disait. Et eux, ils transformaient ça en outils. Des flèches, des lances, des houes, des coupes-coupes. Tous ceux dont les paysans ont besoin pour débroussailler, pour sarcler la terre, pour semer, etc.
Ah, donc ils sont aussi paysans. Enfin, il y a aussi une agriculture.
Il y a aussi des sous-ethnies, des clans qui ne sont que des paysans. Il y a des clans qui
sont répartis comme ça par ethnie.
Il y a des clans qui ne sont que des bouviers, c'est-à-dire des conducteurs de vaches. Et de taureaux.
Et il y a combien d'ethnies juste dans le pays Bassard, on va dire, parce que
dans le pays Bassard, il y a l'ethnie Bassard qui est Bassard, et dessous il y a 5 tribus.
D'accord. Okay.
Voilà. Bon. Les cultivateurs, les forgerons,
et qui cohabitent bien. Enfin là, en tout cas, le vivre ensemble, ça va.
Problème. Ouais. On a les mêmes coutumes, on a la même langue. Okay. Voilà.
Les mêmes initiations. Bon, très bien. Bon, c'était juste pour savoir, mais on reviendra peut-être sur le Togo.
Il y a beaucoup de forêts.
Oui, c'est ça.
Beaucoup d'eau.
C'est pas sec. Enfin, ouais. Si, un petit peu quand même, il y a une saison sèche, une saison humide.
C'est sec.
Ouais, voilà.
La saison humide, il y a de l'eau partout.
D'accord.
Et donc, c'est peuplé de crocodiles partout.
Très bien. Alors, bon, ça c'était juste pour situer. Alors, on va revenir dans le Finistère et en France. Alors, vous évoquiez vos proximités avec les Bretons, le fait d'être à la marge comme les Bretons, ou vous disiez la civilisation paysanne aussi, ça. Ouais.
Oui, la civilisation paysanne. Alors, lorsque je dis ça, les gens de la ville ne comprennent pas. Moi, maire à Saint-Coulis, quand il pleut beaucoup, que mes concitoyens, les paysans, ils ne peuvent pas semer leur maïs parce que c'est trop mouillé, c'est de la boue. Ils n'ont pas besoin de me le dire. Moi, je comprends. Je sais qu'ils sont en difficulté. Quand ils veulent récolter, parce qu'il a beaucoup, beaucoup plu, que les tracteurs risquent de s'enliser dans les champs de maïs. Moi, je comprends ça. Je dis, il y a une culture, il y a une civilisation paysanne. Vous savez, le paysan breton, quelle différence y a-t-il entre les mains calleuses d'un breton qui a trop longtemps tenu le manche de la fourche pour lever ses paquets de paille ou pour distribuer le fumier? Quelle différence y a-t-il entre ces mains-là et les mains du paysan bassard qui a trop longtemps tenu le manche de son coupe-coupe? C'est les mêmes mains calleuses.
Alors ça, c'est vrai pour les paysans bretons traditionnels, mais en fait, c'est vrai que les paysans bretons... Il y a des paysans bretons qui ne sont plus tellement les mains dans la terre, maintenant.
Ils ne sont plus, voilà, ils ne sont plus ceux-là. Moi, ben je les ai connus.
Il y en a encore quelques-uns.
Je suis arrivé ici en 1964. Ouais, j'ai connu les petites fermes où les gens bossaient... avec des petites fourches à quatre dents.
C'est ça. Mais là, il y en a un peu moins maintenant. Hein.
J'ai battu les petits pois en étant étudiant. C'était à la petite fourche à quatre dents qu'on levait le tas de fan pour le monter sur une batteuse et qui partait, puis qui triait les petits pois d'un côté, les fan qui ressortaient de l'autre. J'ai connu ça.
Avant d'être à la DDE, parce que vous étiez à la DDE quand même, il faut le savoir. D'accord, donc c'était une parenthèse sur les accointances entre le Finistère et le Togo. Et là, l'un des gros sujets, on arrive quand même à un des gros sujets du livre, évidemment, c'est le racisme. Et on découvre, si on ne le savait pas, que évidemment ça concerne tous les milieux, la droite comme la gauche, parce que là, finalement, vous faites un récit, vous mentionnez par exemple votre adversaire politique de toujours qui était Jean-Yves Cauzon, où finalement il n'y a jamais eu de différend de l'ordre du racisme entre vous, c'était purement sur le plan des idées.
Uniquement sur les idées. Ouais. Jean-Yves Cauzon est un homme, est un humaniste. Donc on n'a même jamais abordé ces sujets-là. Jamais. Ça a été toujours... sur les idées. Je me rappelle à une campagne, on se retrouve sur le pont à Châteaulin et il me dit, alors il paraît que tu as le soutien de l'abbé Pierre. Ah, je dis oui, il m'a écrit, regarde. Ah, il me répond, moi j'ai le soutien, comment il m'a dit ça, moi j'ai le soutien du pape. Bon, alors j'ai dit tant mieux pour toi. Si c'était que ces deux-là qui devaient nous faire élire, je pense que tu serais élu mieux élu que moi. Alors, et je dis non, mais moi, je lui rétorque, moi j'ai le soutien de Dieu, parce que c'est Mitterrand qui me soutient.
Oui,
Mitterrand était appelé Dieu.
C'est vrai.
Il me dit, je m'en fous, j'ai les fesses larges. Je trouvais ça magnifique. Et puis on s'est croisés, on est partis, chacun de son bord. Jean-Yves Cauzon a été d'une correction, j'aurais eu que des adversaires comme ça.
Voilà. Alors qu'au sein du PS, vous racontez une autre anecdote, donc de quelqu'un, donc vous ne donnez pas le nom, mais un cacique qui dit qu'il n'avait plus qu'à dégommer le black pour être chef de la section, parce que vous étiez plus vous étiez plus conseiller général. Quoi.
Ouais. Eh oui.
Les bras nous en tombent.
Oui, mais je vous dis que le racisme, le racisme n'est pas politiquement latéralisé. La frontière entre les racistes et les non-racistes zigzague dans tous les partis, tous. Ce n'est pas parce qu'on est à droite qu'on est raciste, c'est pas parce qu'on est au centre qu'on n'est pas raciste, c'est pas parce qu'on est à gauche qu'on est... Non.
On aurait cru pourtant.
On aurait pu croire. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Et pareil pour les milieux sociaux quand même. Les gens qui vous écrivaient là, ces lettres ordurières, il y avait quand même de tout. Donc il y en a quelques-unes qu'on peut lire dans le livre. Ouais. Bon, il y en a, on sent bien que le milieu social est très, quand même modeste, puis d'autres... La langue trahit un milieu d'un certain niveau. Enfin.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Vous avez pu en voir, non, vous vouliez, comme c'était des lettres anonymes, vous ne pouviez pas voir, vous ne pouviez pas vérifier ce fait-là. Mais,
Non, je n'ai pas... Non, je n'ai pas tout raconté dans le livre. Je voulais juste témoigner sur des grands sujets. D'ailleurs, ça a été pour moi quelque chose de très important avec mon éditeur. Parce qu'il en a fait un peu
une
espèce de biographie, c'est pas ça que je voulais. Ouais. Au départ, moi, je voulais simplement raconter l'histoire, mais comme document, je ne voulais mettre que les documents, que quelques-uns des documents que j'ai reçus. Pas ma photo, pas la photo de ma mère. Bon,
qui sont quand même, ouais.
Mais bon, il en a fait une espèce d'autobiographie. C'est vrai qu'il y a des éléments.
Oui,
j'en parle beaucoup. Ouais, ouais. Je parle beaucoup de moi,
oui.
De mes origines.
Oui, et du colonialisme, on va en reparler, ça, c'est important.
De comment j'ai évolué, comment en entrant à l'école coloniale, en 1953, comment j'ai évolué jusqu'à arriver là aujourd'hui. Et quand je dis, moi je n'ai pas envie d'être chef de qui que ce soit, patron de qui que ce soit, pour un homme comme moi, né en 1945, en période coloniale, le Togo est devenu indépendant en 1960, né en période coloniale, ayant marché pieds nus, le ventre ballonné, complètement nu d'ailleurs, et puis ayant appris à faire le feu avec le silex, mon père m'a enseigné ça. Et qui, 30 ans après, a participé à l'école des mines, à la mise au point des premiers lasers pour allumer le feu, me dit quand même que j'ai traversé l'humanité.
Oui, c'est ça.
Je ne demande rien à personne. C'est déjà trop pour moi. C'est trop pour un seul homme.
Mais d'ailleurs, quand vous êtes devenu maire de Sakouli, c'est parce qu'on est venu vous chercher. Vous n'aviez pas demandé.
Me chercher. Moi, je me contentais de vivre comme ça. J'étais très bien comme ça.
Et vous receviez moins de lettres à l'époque.
J'avais plein d'amis, plein de copains, de copines. J'étais vraiment. Je me sentais vraiment très, très bien. Je n'avais qu'un regret, c'est de n'avoir pas pu aller aider mon pays d'origine, parce que. Là, les Bretons m'ont apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais plein de choses que les gens restés chez moi ne savent pas. Et donc, j'avais pensé que j'aurais pu les aider. Je me sens aujourd'hui plus riche que les Bassards de ma génération, qui sont toujours restés à Bassard. Et je me sens plus riche que les Bretons de ma génération, qui sont toujours restés en Bretagne.
Bah oui, forcément. La double culture, c'est l'intérêt.
Les deux m'ont façonné et ils ont fait de moi un homme augmenté, comme on dirait maintenant.
Et quand on vous proposait, en fait, quand vous êtes devenu conseiller général, régional, etc., à chaque fois, donc, c'est des gens qui venaient vous chercher ou c'est jamais vous qui disiez bah, j'aimerais bien.
Non. Moi, quand je suis devenu. Alors là, le conseil général. Vous savez que je suis dans un canton, Saint-Couli, c'est dans le canton de Châteaulin, canton qui n'a jamais eu un conseiller général de gauche.
Oui, c'était à droite.
Jamais.
Ouais. Mmh.
Depuis sa création, 1881, le conseiller général a toujours été de droite et il a toujours été élu dès le premier tour.
Clair et net.
Une année, je crois que c'était en 88. Notre candidate avait fait 36%. C'était le plus grand score qu'on avait eu. Alors, quand les gars de la section me disent, Kofi, c'est ton tour. Si on ne veut pas aller faire que de la figuration, il faut que ce soit toi qui te présente. Je sortais du gouvernement, j'étais connu.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Il faut y aller. Ouais. Mais personne n'y croyait.
Vous étiez quand même devenu un notable, en tout cas.
J'étais devenu un notable. Mm-hmm. Mais personne n'y croyait, pas même moi. À tel point que nous avons dépensé tout l'argent auquel on avait droit dès le premier tour. Il nous restait 500 francs. 500 francs, c'est-à-dire 80 euros pour le deuxième tour. On ne savait pas qu'on aurait eu. Alors, franchement, j'ai trouvé ça très beau, à tel point que quand les résultats ont été annoncés, on était tous à la mairie de Châteaulin. Il y a un gars de Saint-Couli qui est monté sur une table, il s'est déshabillé et il a crié, voilà, on nous traite de cons, on a élu un noir à Saint-Couli. Et bien maintenant, ce n'est plus le cas. 14 communes ont voté pour lui.
Voilà.
Voilà.
Donc, comme voilà. Quoi, localement, les gens ne sont pas si racistes que ça, finalement.
Non, non, non.
C'est ça qui est rassurant. Quand
localement,
même.
Je n'ai pas eu... Oui, j'ai eu quelques difficultés. Une dame qui a téléphoné pour m'engueuler parce que... Bon, mais c'était différent. Elle souhaitait que son fils devienne maire de Saint-Couli. Je comprends que, bon, c'était dans l'adversité. Mal, quoi.
Vous aviez pris la place, du coup.
Oui, j'avais pris la place, voilà.
Oui. Est-ce que vous n'avez pas servi aussi de caution, parfois c'était tendance pour la diversité. Tiens, c'est bien d'avoir un candidat noir. Il n'y a pas ça aussi, non?
Ah, mais bien sûr que si, j'ai servi de caution. Je suis complètement conscient de ça.
C'est ça, oui. Ouais.
Je ne l'ai vraiment compris que quand je suis arrivé au gouvernement. Et là, Mitterrand, qui adorait les symboles, avait trouvé. Et je l'ai compris quand je suis arrivé à Paris. Je l'ai compris 15 jours après. Je suis arrivé à Paris. Il n'y avait jamais eu de ministère de l'intégration. Personne ne savait ce que c'était. J'étais le premier ministre de l'intégration. Je n'avais pas de locaux. Je n'avais pas d'administration. Je n'avais rien. Bien. Et donc, quand j'arrive là-bas, Richard, Ferrand, Jocelyne, tous mes collaborateurs. Et on va trouver des locaux quand même pour mettre le ministère. Puis on va te trouver quelque part pour te loger. Quand même, c'est pas possible. Voilà. Et 15 jours après, coup de téléphone. Quand vous êtes dans un bureau de ministre, il y a plein de postes de téléphone. Et il y en a en particulier un que vous ne pouvez pas utiliser. C'est le téléphone du président.
D'accord. C'est lui qui appelle.
C'est lui qui appelle.
Très bien.
Quand il sonne, vous sautez au plafond. On dit, qu'est-ce que j'ai fait encore?
Oui, j'imagine.
Et donc, venez me voir. Bon, je traverse la Seine. Et puis, il me dit, mais est-ce que vous avez vu que les banlieues brûlent? J'ai dit, oui, monsieur le président. Mais qu'est-ce que vous attendez?
Ah, bon. Fallait arrêter l'incendie des banlieues, quoi.
Vous pouvez repartir.
Ah ouais.
Donc, j'ai compris. 2 jours après, j'étais en banlieue, à Draveil, je me rappelle.
Dans l'Essonne.
J'arrive à Draveil. Le ministre de l'Intégration est arrivé à Draveil. Tous les beurs, les noirs, les blancs, les jeunes qui sont en galère, sont tous arrivés. Ils tiraient tellement sur ma veste que j'ai fini par l'enlever. Parce que c'était Kofi, nous aussi on veut, est-ce que tu crois que nous aussi on peut devenir ministre? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Il faut travailler.
Eh ben voilà, c'est ça. Voilà.
Alors, c'était... Et puis, tout ça est filmé.
Ah, bien sûr. Ah, bah oui, évidemment.
Le lendemain, le téléphone. Venez me voir. J'arrive, il me dit, voilà, monsieur le ministre, j'ai vu les images hier soir aux informations. C'est ça que j'attends de vous.
Bon.
Vous avez vu le succès que vous avez? Avec vous, on va y arriver. Allez, allez-y. Vous avez tout mon soutien. Si ça ne va pas, vous venez me voir. Qu'est-ce qui vous manque là? J'ai dit, non mais rien. On est en train de chercher des locaux. Mais ça va être... Demain, ça sera réglé. C'est moi qui vous le dis. Alors, voilà. Ça a été comme ça.
Les symboles.
J'ai compris, effectivement, que je servais de caution. Voilà. Le noir du service, en quelque sorte, qui va calmer les banlieues, qui va calmer les jeunes issus de l'immigration, la deuxième génération. Et en effet, Ça a bien marché. Ils sont venus, on a fait plein de choses. Hein. Bah, on a créé les grands frères, on a créé les grandes sœurs, on a créé tout un système qui permettait d'entamer le dialogue entre la société et puis ces jeunes-là qui étaient en marge. Ça a bien fonctionné.
Et puis vous donniez espoir, en fait. Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui manque maintenant dans la situation politique actuelle, quoi ?
J'en parle par le biais du sport. C'est ça qui donnait l'espoir. En 1998, je suis député. Zidane, Thuram, ils viennent me voir. On est venu pour te présenter la coupe. Ils avaient la coupe du monde. On est venu pour te présenter la coupe.
Ah ouais.
Et te dire que désormais, tu vois, on est comme des demi-dieux. Et on voulait t'apporter notre soutien pour que tu continues.
Et d'ailleurs, dans le livre, à un moment, vous faites référence à des gens qui vous écrivent, en fait, et qui vous reprochent, quelque part, de ne pas vous présenter à la présidence de la République. Qu'est-ce que vous répondez à ça, en fait ? Pourquoi vous n'êtes pas présenté alors à la présidence de la République française ?
J'ai répondu à ça. Moi, j'ai dit que je trouve que la France a suffisamment d'hommes et de femmes préparés à ça. Moi, je n'ai pas été à l'ENA. Moi, je suis un technicien. Moi, je sais calculer les ponts. C'est tout ce que je sais faire.
Oui, mais enfin, quand on voit ce que font les énarques...
J'ai fait des ponts. J'en ai fait, vous voyez la voie express qui passe là entre Brest et le Morbihan, puis entre Brest et les Côtes d'Armor, tous les ponts sont tous passés entre mes mains.
Bon,
ensuite, je me suis dit que c'était possible de construire des ponts entre les hommes. Et ça, je n'ai pas réussi.
Parce que vous racontez aussi l'histoire de Gaston Monnerville, le cas Gaston Monnerville, pourquoi, et qui est une des raisons pour lesquelles vous ne pourriez pas vous présenter à la présidence. Racontez alors.
Le cas de Gaston Monnerville. Gaston Monnerville, c'est un sénateur du Lot qui est originaire de la Guyane. Il est noir, comme moi. Descendant d'esclaves, en plus. Et sous la 4e République, c'était le président du Sénat qui devenait président de l'Assemblée s'il y avait une vacance. Même sous la 5e.
Président de la République, oui, tout à fait.
Encore aujourd'hui,
si le président meurt.
Si Macron meurt brutalement aujourd'hui, demain, c'est... comment il s'appelle ? Le président du Sénat.
Oui, comment il s'appelle ?
C'est lui qui devient président de la République pendant le temps qu'il faut pour préparer les élections pour qu'un nouveau président soit élu. Et donc... Gaston Monnerville, déjà, avait été frustré comme ça quand on a nommé René Coty pour devenir président. C'était lui qui aurait dû l'être, parce que c'était la règle. Et puis, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, De Gaulle a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Par moments, c'était ric-rac, je démissionne, je démissionne pas. Mais il n'a jamais démissionné, parce que Gaston Monnerville était le président du Sénat. Parce que sinon, c'est lui qui serait devenu le président.
Donc il ne voulait pas, quoi.
Mais un nègre président de la République française, avec le bouton nucléaire dans la main.
Il ne pouvait pas concevoir ça, quoi.
Vous n'imaginez pas. Ce n'est pas possible. Et donc, De Gaulle, il a attendu, jusqu'à ce que Monnerville quitte le Sénat. Poher est devenu président. Il a démissionné. Poher est devenu président. Voilà.
Et c'est là qu'on en arrive à un thème vraiment... sur le pourquoi est-ce que le racisme persiste et puis même parfois se renforce, vous êtes très dur avec la République française, quoi. Enfin, vous expliquez qu'en fait, c'est vraiment... Il y a une faute républicaine, quoi. Enfin, de n'avoir pas sévi et puis de n'avoir pas...
Vous savez, l'histoire, c'est l'histoire qui parle, hein. Ce n'est pas moi. Quand on prend l'histoire, on se dit que la République française n'est pas reconnaissante. Elle n'est pas reconnaissante à tous ces gens qui sont venus d'Indochine, d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, d'Asie, de partout, qui sont venus se battre pour la République. Pendant les deux guerres qui n'étaient pas du tout les leurs, c'était la guerre entre la France et l'Allemagne. Bon. Et quand on sait comment ils ont été traités, les tirailleurs sénégalais, à qui on n'a jamais donné le moindre sou. Je raconte l'histoire de mon grand-oncle maternel.
Alors celle-là, ouais, vous pouvez nous la raconter, c'est
vraiment,
terrible.
C'est,
terrible.
Ouais. C'est quelque chose de terrible.
Ouais.
Là, un monsieur, mon grand-oncle, l'oncle de ma mère, Kangmatié, qui est à Bangéli, et Cujat, et qui nous raconte des histoires de neige. On était tous en cercle autour de lui.
Et donc, il est Cujat de la guerre, à cause de la guerre.
De la guerre, ouais. 14-18.
Mmh. D'accord, il a perdu ses deux jambes à la guerre.
Il nous raconte que ce pays-là où j'ai fait la guerre est tellement froid que celui qui pose son pied par terre va voir son pied coupé nécessairement. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis sorti pour aller aider un copain qui était tombé, je le voyais. J'ai pas pu garder mes chaussures parce que la boue était telle que je suis sorti pieds nus et j'ai couru pour aller chercher mon copain. Je l'ai ramené dans la fosse et sauf que on m'a coupé mes deux jambes. C'est pour ça que je n'ai plus aucune jambe. Il nous raconte ça sous le soleil de Bangéli, sous le soleil étincelant à 40 degrés. Il nous parle de neige.
Et puis il y a l'histoire aussi de ces soldats africains de la libération de Paris là, qu'on a mis derrière parce qu'on ne voulait pas les voir. Racontez-nous aussi celle-là.
On a appelé le blanchiment. Le blanchiment, c'était... Alors il y avait une colonne de soldats africains qui est descendue en Provence, qui a libéré la Provence, puis qui remonte. Ils remontent vers Paris. Et aux portes de Paris, on les a arrêtés. On les a fait tous descendre des camions. On a fait monter des jeunes soldats français blancs qui sont entrés dans Paris comme libérateurs. Et les autres sont restés à la porte.
Ils ne sont même pas venus derrière à pied.
C'est pas possible que des nègres viennent libérer Paris. Donc, ce n'était pas possible de faire ça. Et ça, c'est les grands généraux qui ont fait ça.
Oui. Alors, vous racontez plein d'histoires. Vous racontez l'histoire de Jean Mort, qui est une histoire brestoise, cette fois, donc d'un esclave à Brest, enfin, qui était vendu à Brest.
Oui.
Vous dites, il faut pardonner, mais ne rien oublier. Enfin, il a sa rue maintenant, grâce à vous, Jean Mort. Et puis, vous dites, enfin, moi, je trouve que les mots sont tout à fait bien choisis, la colonisation, façon jugée plus humaine de poursuivre, en quelque sorte, l'esclavage, mais sur place, les indépendances accordées du bout des lèvres et la poursuite d'une impitoyable exploitation. Donc là, on en arrive à l'esprit même colonial qui persiste maintenant. Quoi.
Le néocolonialisme, comme on dit.
C'est
ça qui continue.
C'est quoi le plus terrible, d'après vous
Écoutez, vous savez que quelque chose de tout récent, de tout, qui est tout frais, là. La France a changé de monnaie. Il n'existe plus de franc en France. Le franc existe en Afrique.
Exact, c'est vrai.
Et ce franc, il est garanti par une ligne de trésor de la France. Moyennant quoi, il est exigé des pays, 14, qui ont le franc CFA, il est exigé le dépôt de leur richesse à la Banque de France, à la trésorerie de France. Et ils sont obligés de payer la garantie, en quelque sorte, que la France leur apporte. Vous savez combien ça rapporte à la France par an ? 440 milliards d'euros. Que les Africains payent tous les ans à la France. Les Africains meurent de faim, la bouche ouverte, mais la France leur pique l'argent. Sans compter les ressources.
C'est-à-dire bien sûr.
L'or, les terres rares,
toutes les mines et tout ça.
Le cacao, le café, etc. Le diamant, etc. Sans compter ça. Ça, c'est le néocolonialisme. On est toujours dans l'économie coloniale, c'est-à-dire une économie d'extraction. On prend et on ne transforme rien sur place. On prend et puis voilà. Au départ, je vous parlais de Bangéli et de mes parents métallurgistes et les forgerons cabiais. Mais c'était comme ça. On faisait des outils qu'on vendait, on ne vendait pas. C'était le troc. Tu me donnes 10 kilos de cacahuètes, je te donne 3 ou. C'est les Allemands les premiers qui sont arrivés au Togo.
Mais à l'époque, c'était du circuit court, en tout cas. Quoi.
Voilà. Voilà. Et ouais. On a interdit l'exploitation du minerai de fer.
Ah oui.
Ils n'ont pas réussi. Ils ont tenté d'interdire, mais ils ont compris. Ils sont venus là, ils sont rentrés en Europe, ils ont pris les minerais, ce qu'on appelle la minette de Lorraine et tout ça, ils ont fabriqué les mêmes outils, les flèches, les machins, et ils ont vendu à 10 fois moins cher. C'est-à-dire que tu as plus de trucs que tu dois... Ben, ils ont tué l'industrie locale, forcément. Les gens se sont arrêtés. Aujourd'hui, le poulet qui est produit chez Dou,
c'est ça, ouais.
Il est produit par le paysan breton. Je les connais, il y a des éleveurs de poulet chez moi, à Saint-Coulis. Ce poulet-là, élevé ici, nourri, abattu, mis en conditionnement pour être vendu sur le marché, arrive au Togo 3 fois moins cher que le poulet que les Togolais élèvent.
Donc ils n'élèvent plus de poulet.
Donc ils n'élèvent plus. Ils n'élèvent plus les poulets.
Je crois qu'il y a la même histoire avec la tomate. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça.
Et du coup, ils sont dépendants. Ils sont toujours dépendants de la France.
Et en plus, on les regarde justement avec condescendance. Enfin, justement, il y a tout un regard qui s'accompagne de ça, l'infantilisation,
le
etc.
Le paysan ici ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi vous n'élevez pas vos poulets, vous ? Pourquoi vous attendez que nous, on ne va quand même pas nourrir le monde entier ? Et pourtant, c'est ça qui se passe. Mmh. Et le poulet, il arrive par le port de Lomé. Lequel port de Lomé est gouverné par un Breton, Vincent Bolloré, qui est le patron du port de Lomé. La boucle est bouclée.
C'est ça. Ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait, enfin vous n'en parlez pas. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait mettre ce système-là par terre ?
Il faut des deux côtés qu'on se batte pour une meilleure répartition des fruits du travail de tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faudrait que les chefs d'État africains, tous ces satrapes qui sont là en train de massacrer leur peuple, c'est pas pour rien que j'ai tenté d'aller au Togo. C'est parce que moi, je sais que je vois ce qu'il faut faire. Il faut que la France comprenne qu'elle ne peut pas continuer comme ça. La France est un grand pays. Sur le plan international, tout ça parce qu'elle a le soutien des pays africains qui votent comme un seul homme à l'ONU pour la France. La France est un petit pays de rien du tout, toute seule. Et donc, tous les présidents qui sont élus, y compris François Hollande, dont j'étais le conseiller aux affaires africaines,
que vous n'épargnez pas, d'ailleurs. Hein.
Non,
démagogue froussard.
Je suis très en colère après lui.
Oui, parce qu'ils ont continué à soutenir, en fait, les dictateurs africains.
Quand il a vu que la France n'était rien, il a compris. Il s'est converti.
C'est ça. Et donc, on continue à soutenir des dictateurs, etc.
Absolument.
En fait, c'est ça. Pour qu'ils puissent voter pour,
qu'ils continuent à soutenir la France dans tous les grands débats internationaux.
Et donc, on entretient aussi donc, une pauvreté localement qui génère la migration. Et donc, on en arrive aussi à ce sujet. Comment expliquer la migration aux Français ?
Ouais. Et on chasse les migrants parce qu'ils viennent manger notre pain. Alors que si personne... Non, je vais vous dire quelque chose. Personne ne part le cœur léger de chez lui. Ça n'existe pas. Même moi, ici, qui suis un nanti, en quelque sorte. Je suis bien mieux que des tas de bretons qui vivent là avec moi. Pourtant, il m'arrive de me dire « Non, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ?» Il m'arrive de dire « Mais rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais là ? Ton soleil de Bangéli, tes forêts de teck, cette chaleur, ces odeurs de fumure, d'humus et tout ça. J'ai tout ça dans le nez. Hein. Il ne faut pas croire.
Et les bruits de la forêt sur la montagne.
Il ne faut pas croire que quelqu'un qui est exilé peut être heureux. Ça n'existe pas. Donc ces gens viennent ici, ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie de voler les allocations familiales ou je ne sais pas quoi. Ils viennent là parce qu'ils ne trouvent pas à manger chez eux. Ils ne trouvent pas à boire. Ils n'ont pas de liberté. Ils ne peuvent pas faire de choix. Et un homme qui a faim de manger, soif de boire ou soif de liberté, vous pouvez faire ce que vous voulez, il partira.
C'est ça.
Tu ne peux pas nourrir ta famille, tu pars. Il n'y a rien à faire.
Ce qui arrive, c'est les plus dégourdis. Et vous dites, finalement, on leur file des boulots dont personne ne veut ici. Donc, c'est de la confiture pour les cochons, vous dites.
Absolument.
Ça.
Absolument. Parce que ce qui arrive ici, quand un gars part de Kaï au Mali, il dit, je vais en France. Sur 10 qui sont partis, il y en a 4 qui arrivent en France. 4, pas un de plus. Et il y en a 6 qui sont morts en route.
Ouais.
Soit dans le désert, soit en Méditerranée, soit enlevés par des... Mais pourquoi ces 4-là? Parce que c'est les 4 les plus dégourdis. C'est les 4 les plus malins. C'est les 4 qui ont compris comment se débrouiller. Et quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'on en fait? Ils courent, ils se cachent parce que la police les poursuit. Il y a des marchands de nuit qui les embarquent, qui les amènent. Il y a des marchands de travaux, machin, qui les prennent, qui vivent dans des caves humides avec les rats et ils se cachent tous les jours. Ils sont ramasseurs de poubelles, ils sont gardiens de... Moi, je connais des Africains qui ont des thèses, et qui sont gardiens de sécurité à l'entrée des grands magasins à Paris. Non, mais ça veut dire quoi, ça?
Ouais, c'est vraiment un énorme gâchis, hein. C'est vraiment le sentiment qu'on a.
Et l'Afrique ne pourra jamais se développer, se relever de tout ça.
Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, parce qu'à un moment, vous citez un très beau texte écrit par des jeunes Africains, les lecteurs liront, sur le destin de l'Afrique. Est-ce que ces gens-là, de bonne volonté, visiblement, est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux en Afrique pour qu'un jour, ils puissent faire...
Ils sont. Oui, ils disent, nous sommes le seul peuple.
Ouais, c'est ça, c'est un beau texte. Ouais, voilà.
C'est ça. Le seul peuple à qui on déclare la guerre en lui fournissant les armes, en lui disant battez-vous.
Ouais.
C'est ça, ouais. C'est tout ça. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont pris conscience aujourd'hui, pour peu que les régimes locaux, politiques locaux, donnent un signal, c'est des jeunes qui sont prêts à développer leur pays. À tout donner,
ah ouais. À prendre le destin de l'Afrique.
C'est cet exemple-là que je voulais donner au Togo.
Ouais. Bah oui, justement, c'est pour ça. Vous n'en parlez pas tellement, finalement, de votre expérience dans le livre. Hein. Forcément, c'était pas vous ferez un autre bouquin pour ça,
mais
sans doute.
Mais la France m'a donné beaucoup. La Bretagne m'a beaucoup appris. Je vous dis, moi, je suis arrivé ici en 1964. J'ai connu la Bretagne qui n'était pas plus développée que le Togo. Et en 30 ans, par la volonté des hommes, de quelques-uns, la Bretagne a explosé. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes régions de France, d'Europe. Première région agricole d'Europe. Vous vous rendez compte? 30 ans. Quelques personnes.
Et donc en Afrique, au Togo, quand vous y êtes allé donc pour vous présenter à la présidentielle, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Eh bien, ce qui n'a pas marché, c'est que les Togolais de la brousse, les gens, le peuple, ce qu'on appelle le peuple, quand je faisais des meetings, c'était terrible. C'était oui, nous, les Blancs t'ont pris, ils t'ont fait ministre et tout. Eh bien, maintenant, nous, on te veut parce que tu es à nous. Tu es né ici. Le placenta, ton placenta est enterré ici. Tu es à nous. Maintenant, tu as donné assez aux Blancs. Viens chez nous.
Okay.
On te veut.
Ben oui, ben alors.
Aide-nous, viens.
Bon, et alors?
Viens. Mais le pouvoir ne l'a pas vu comme ça. Celui-ci, il triche tout le temps aux élections et tout ça. Donc, je leur ai annoncé la couleur. J'ai dit, cette fois-ci, vous ne tricherez pas. Je vais veiller à ce que les jeunes expatriés, ils vont rentrer. Ils vont surveiller les bulletins de vote. Ils vont surveiller les bureaux de vote. Et les résultats seront affichés au tableau et ils seront publics. Vous verrez comment vous allez faire. Ils ont décidé que je ne pouvais pas me présenter. Point.
Voilà.
Donc, je n'ai pas pu me présenter.
Vous pourriez y aller encore, là, non?
Je pourrais aller, mais ce serait pareil.
Ce serait pareil, oui, c'est ça. Vous ne pourriez pas surmonter.
Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas.
Ouais.
Il y a un ministre que je connaissais qui était, qui était entré au collège peut-être 4-5 ans après moi et qui est maintenant ministre et qui me dit Koffi, tu sais, hein, nous, on trouve que tu es devenu trop blanc. Tu peux pas gouverner ce pays, tu es devenu trop blanc. Mm. En quelque sorte, tu serais un colonisateur.
Bon, c'est dur à entendre, j'imagine.
C'est dur à entendre, ouais. Oui.
Alors, est-ce qu'on peut rester optimiste malgré tout ? Enfin, je vais vous citer encore. Hein.
Vous dites,
la force de la rencontre, du dialogue, de l'ouverture à l'autre, de la philanthropie et peut-être du charisme. Et parce qu'un humain, ça réfléchit.
Ça réfléchit, oui.
Ouais. Parfois, on se demande.
On dit, il y a une parole, un dicton français qui dit on n'oblige pas à boire un âne qui n'a pas soif. Sauf que les humains, ce n'est pas des ânes. Ils réfléchissent. Et si on leur donne la liberté de réfléchir, ils trouvent toujours la solution. Et je pense que si un jour, il y a une chance que quelqu'un comme moi parvienne au pouvoir en Afrique, c'est grâce à ça. Grâce au fait que l'humain n'est pas un âne, il réfléchit.
Bon. Ben on va... C'est tout le mal qu'on souhaitera à l'Afrique. Alors, et puis, on va vous remercier en rappelant aux auditeurs et aux auditrices qu'ils peuvent acheter le livre de Koffi Yamnian, Mémoire d'outre-haine, édité par Locus Solus. Merci.
Merci.